l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.
Bonjour à tous, à chacune, à chacun, et bonjour à Laurent, technicien de Couleur FM 97.1. Au micro, Serge Chambon, une émission un peu particulière, car Alain Compongan n'est pas là. Enfin, il n'est là qu'indirectement, car c'est lui qui a choisi les chansons. Alors, je ne vais pas en profiter pour faire la révolution, on va faire comme d'habitude, d'abord des nouvelles de l'INIS, puis de l'Italie, et enfin nous parlerons, dans ces nouvelles de l'Italie, nous parlerons de l'énergie nucléaire en Italie et d'un projet de musée sur le fascisme dans le village natal de Mussolini. Et ce qui prendra la majorité de notre émission, notre volet supplémentaire sur l'immigration, où nous traiterons ce mois-ci de la naturalisation. Alors, commençons par des nouvelles de l'INIS. D'abord, le 21 mai, l'INIS participera à la journée Portes ouvertes des associations de Bourgoin. Une permanence sera assurée au 73 rue de la Libération à notre local, de 10h à 16h. Vous pourrez y rencontrer les membres du bureau pour leur faire part de vos remarques, pour découvrir l'INIS et en particulier pour leur dire ce que vous pensez des émissions de radio. Plus tard, dans le mois de juin, le 4e séjour d'immersion aura lieu du 20 au 25 juin à la Fontana di Torres. Ça se trouve entre le col du Mont-Genève et la montée de Sestrière. Et depuis peu, il se prépare un autre séjour au même endroit pour le début septembre et il reste 3 places. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter au 06 32 86 98 49. Je rappelle que ces séjours d'immersion s'adressent aux personnes participant au cours de l'INIS mais qui parlent un petit peu l'italien. Enfin, au mois d'octobre, la seconde édition du festival Estrade se prépare sur 3 jours, les 13, 14, 15 octobre. Donc, on se plaît à le répéter à chaque émission. Et puis, donc 3 soirées et 3 après-midi où le Conservatoire de musique de Bourgoin fera des animations autour de la musique, bien sûr. Et parallèlement, pour la première fois, se tiendra un salon de la bande dessinée. Donc la programmation du festival est bouclée. Les salles sont quasiment bouclées, donc on peut dire que c'est pratiquement terminé pour l'organisation. Alors j'en profite pour faire une annonce. Généralement, les musiciens italiens sont hébergés dans les familles des membres de l'INIS. Donc si vous êtes intéressé pour en recevoir, dites-le-moi donc au même numéro de téléphone, 06 32 86 98 49. Allez, après cette présentation, on va passer à la première chanson. Donc les 3 chansons que nous allons écouter auront pour thème l'immigration. La première a pour titre America America. Donc il existe plusieurs versions de cette chanson. Elle parle du départ des montagnards de l'Italie du Nord-Est, c'est-à-dire à l'est des Dolomites, vers l'Amérique latine. Donc nous allons entendre la version interprétée par le Coro Monte d'Olada, c'est un chœur des Dolomites dans la région de Belluno. Beaucoup d'émigrants de cette région venaient aussi en France, par exemple dans le Nord-Isère, où ils exercèrent notamment le métier de chaisier. Donc on écoute maintenant le Coro Monte d'Olada.
Thank you.
Alors, pour prolonger cette chanson, puisque le chœur nous vient de Belluno, je voudrais rappeler donc qu'il existe deux jumelages de villages du Nord-Isère avec des villages des Dolomites. C'est Dolomieux et Agordo, et puis Saint-Marcel-Bellaccueil avec le village de Gosaldo. Et avec Saint-Marcel-Bellaccueil, nous allons essayer de préparer pour l'année prochaine une émission sur le loup, puisque à Saint-Marcel-Bellaccueil, il y a un berger qui est parti en transhumance le 5 mai. Ça a donné l'occasion d'une fête à Saint-Marcel. Et avec lui, et puis peut-être des connaissances dans le milieu agricole et pas, surtout pastoral de Belluno, nous évoquerons peut-être l'année prochaine une émission à bâtir autour du loup. On va voir si le loup est aussi dangereux ou aussi onéreux en Italie qu'en France. Parce que je rappelle, le loup, il y a 300 loups en France, 20 millions de budget, ce qui fait en gros 70 000 euros par loup. Allez, changeons d'époque maintenant, abandonnons les nouvelles de l'Inis pour passer à deux événements que j'ai retenus en Italie. Le premier est un peu ancien parce que j'ai pas pu faire l'émission du mois précédent. Il concerne le 30e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Donc une occasion m'était donnée pour faire un petit retour en arrière sur l'énergie nucléaire en Italie. Alors d'abord, un point de géographie, il faut bien connaître, l'Italie est à l'est des Alpes. C'est-à-dire que lors du nuage de Tchernobyl, elle n'a pas été protégée comme nous, parce que nous, on est à l'ouest. Donc le plateau des Alpes, qui est environ à 2200 mètres, si on enlève le mont Viso et toutes les montagnes pointues, les nuages sont en gros vers 4000 mètres, mais les Alpes nous ont protégés quand même parce que ce jour-là, le gouvernement français a décidé que les nuages voyageaient plus bas que d'habitude. Donc nous, on était derrière à l'abri de notre rempart de montagne et nous n'avons tiré aucune conclusion de cet accident. Par contre, les Italiens, eux étant du mauvais côté des Alpes, ont voté contre le nucléaire par un référendum qui s'est tenu peu de temps après, en 1987. À l'époque, l'Italie avait trois petites centrales et une plus grosse à Caorso. Alors Caorso est un petit village qui se trouve entre Piacenza et Cremone, en Lombardie. Alors pour donner un ordre d'idée, cette centrale produisait 850 mégawatts, c'est-à-dire comme chacun d'un des quatre réacteurs du budget. Elle était quasiment neuve, c'est-à-dire qu'elle était terminée 5 ans plus tôt. Et l'Italie avait aussi un programme complet de centrales nucléaires pour monter en puissance dans cette énergie. Donc une centrale était d'ailleurs en construction au nord de Rome. Et à l'époque, l'Italie était très impliquée dans le développement de l'énergie nucléaire et elle avait une part importante dans le, je sais pas s'il faut dire surgénérateur ou sous-générateur de Crémalville. Retenons surgénérateur puisqu'on l'appelait comme ça. Le référendum statuant sur l'arrêt du nucléaire a bien sûr accentué une position fortement importatrice d'énergie, surtout en charbon et en gaz. L'Italie importe 75% en gros de son énergie contre 50% à la France. Alors on retient souvent nos 75% d'énergie nucléaire, mais c'est seulement de l'énergie pour faire de l'électricité. Et alors maintenant, l'Italie se trouve un peu devant nous en ce qui concerne les énergies renouvelables, puisque ces énergies couvrent 8,3% des besoins en Italie contre 7,3% en France. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer de cet événement? Qu'il y a un peu plus sur ce sujet, un peu plus de démocratie en Italie. Au plan économique, bon, je ne m'estime pas assez qualifié pour juger où se trouve le bon choix. On peut dire que les Italiens ont payé leur énergie plus cher que nous depuis 40 ans. Mais la situation financière d'EDF et le coût futur des retraitements et du stockage font que pour nous, je pense que les coûts sont devant nous. Et enfin, en élargissant un peu beaucoup même la réflexion, on pourrait supprimer Météo France et demander au Premier ministre les prévisions météo de la journée, mais seulement en France, pas en Italie. Voilà pour ce rappel un petit peu historique. Maintenant, on va se tourner vers l'avenir, vers 2019, puisque en 2019, doit s'ouvrir un musée du fascisme qui sera situé à Predappio. C'est un petit village à quelques kilomètres de Forlì, à 90 kilomètres à l'est de Bologne. Donc quand j'ai vu cette information, le premier mouvement a été une idée de répulsion. Quelle idée de créer un musée pour avoir un lieu de culte du fascisme. Et puis, en creusant un petit peu, je crois qu'il faut regarder un petit peu plus près. Predappio est le village natal de Mussolini. Donc régulièrement, des visiteurs viennent en pèlerinage dans la maison natale du Duce. Pèlerinage, le mot n'est pas trop fort. Ils sont revêtus de la chemise noire, symbole de la milice créée par Mussolini. C'est là aussi que repose la dépouille du dictateur depuis 1957 dans la crypte familiale du cimetière municipal. Donc régulièrement, la ville est envahie de touristes nostalgiques. Et pour répondre à cette présence, il y a tout au long de la ville des marchands qui vendent tout un tas de gadgets à l'effigie de Mussolini. Ça va du t-shirt, de la bière, des choses comme ça. Donc le spectacle a l'air assez affligeant. Je reconnais que je n'y suis jamais allé, mais j'ai vu ces images donc sur Internet. Alors le projet est ancien. La municipalité voulait perdre cette image attachée à Mussolini. Et il faut bien préciser la couleur politique de la mairie. La mairie de Predappio est dirigée par une municipalité de gauche, enfin Parti démocrate, depuis au moins 10 ans. Et le maire actuel a fait campagne pour sa réélection autour de ce projet. Et au début du mois de février, un conseiller de Matteo Renzi s'est rendu à Predappio pour assurer la municipalité du soutien du gouvernement et l'État y mettra 2 millions de francs, soit 40% du total. Il s'agira de transformer l'ancien siège régional du parti fasciste en un centre permanent d'archives et d'études sur plus de 2000 mètres carrés. Par ailleurs, une cinquantaine d'historiens ont pris position en faveur de ce projet. Et c'est là un signe donc que Mussolini est en train de devenir un sujet d'étude débarrassé du cœur encombrant des adorateurs. Donc le musée ouvrira en 2019 et d'ici là, donc outre la rénovation du bâtiment, il faudra créer les équipes d'historiens qui travailleront sur le sujet. Alors, réflexion, est-ce la culture contre la barbarie ou une action pour canaliser mais maintenir une activité touristique? Voilà la question, je ne risque pas de la trancher. Seul le temps nous dira si cette initiative relève de la culture ou de la propagande. Les premières publications, bien sûr, des historiens seront lues attentivement et leur présence... leur présence voudrait faire triompher la raison contre la nostalgie, c'est ce que le maire de Predappio espère. Allez, on va passer à une seconde chanson qui s'appelle Minatori non partite du groupe Incanto. Ce chant fait référence au départ des mineurs italiens vers des pays miniers tels que la France, la Belgique, entre autres, où ils partageaient souvent la dureté du métier de mineur avec des émigrés polonais. Et l'exemple de cette présence dans les mines est donné par les victimes de l'accident du 8 août 1956 à Marcinelle. Donc il y a eu 262 victimes. Sur ces 262 victimes, 136 Italiens et 95 Belges, ensuite 8 Polonais, c'est-à-dire que les Italiens représente un peu plus de la moitié des victimes. Et ces victimes de l'accident de Marcinelle venaient d'un village des Abruzzes qui s'appelle Manopello, qui est dans la province de Pescara. Donc on écoute le groupe Incanto.
Minatori
Allez, jingle. Bien, donc vous avez reconnu notre jingle. Il s'agit d'entamer notre sujet sur l'émigration italienne dans le Nord-Isère. Donc je rappelle brièvement que c'est un chantier que nous avons commencé il y a 5 ans en faisant de la collecte. Et nous y avons déjà consacré plusieurs séquences dans nos émissions précédentes. La première était centrée sur les conditions de départ, la seconde sur le logement. Ensuite, l'immigration avait occupé l'émission du mois de décembre, je crois, sous une forme plus générale. D'autres restitutions de cette collecte de témoignages sont maintenant concrétisées. Il y a donc ces émissions de radio, le spectacle de Micheline Duplan et de Dominique Molin, qui, je pense, va être donné au-delà d'un périmètre restant dans un avenir proche. Il reste à concrétiser une pièce de théâtre qui est en cours d'écriture et puis des brochures thématiques. Et pour ma part, je rêve un peu de transposer de l'autre côté des Alpes la pièce de théâtre et puis le récit de Micheline, peut-être avec un complément que feraient les Piémontais sur le fait de ne pas avoir immigré, par exemple. Alors la séquence d'aujourd'hui aura pour sujet la naturalisation. Alors, se faire naturaliser ou pas paraît le plus souvent lourd de sens. On a en gros trois profils. La France m'accueille, je deviens donc français et la famille est naturalisée. Les enfants nés en France portent souvent des prénoms français. Deuxième cas, la France m'accueille, mais je suis italien et la famille tient à le rester. Et troisième cas, plus minoritaire, la naturalisation, c'est des papiers à faire. Dans une langue mal maîtrisée, ce n'est pas important par rapport au problème du moment qui était manger et se loger. Alors, dans nos témoignages, j'ai sélectionné quelques extraits et nous allons en entendre 7, je crois. Alors, de nos jours, on voit dans ce thème de la naturalisation se profiler un grand débat philosophique sur le sol, sur ce qu'on est, etc. C'est un peu différent. Les réflexions ont été importantes dans la famille. Enfin, d'après ce qu'on a collecté, c'est surtout le père qui a réfléchi. Les racines chères aux psychologues sont parfois invoquées, mais rarement. C'est souvent beaucoup plus pragmatique. Il est toujours difficile de regarder un phénomène historique avec les yeux de l'époque et non pas nos yeux actuels. Donc, après avoir écouté toutes ces séquences, oui, je tire la conclusion que la décision était plus pragmatique que philosophique. Alors, la naturalisation était quelque chose d'assez compliqué, surtout pour des gens qui maîtrisaient mal le français ou qui, bien souvent, ne parlaient que le patois et ne parlaient même pas l'italien. D'abord, on va entendre la famille Benfatto. C'était en 1968.
Et vous avez été naturalisé quand, alors ensemble, je suppose. À peu près, hein.
Non, je vais chercher le livre.
D'accord.
68, non. Oui, 68.
Et les enfants, du coup, parce que les lois ont tellement, changent tellement d'une année à l'autre, les filles ont été naturalisées en même temps que vous ou avant?
Avant. Disons que le commissaire, je l'avais bien sympathisé, puis un jour il a dit, si vous voulez naturaliser votre fille, parce qu'il y a certains métiers qui des fois il faut être français à l'époque,
absolument.
Maintenant ça va être différent. Mais enfin ça doit jouer quand même. Ouais. Et puis voilà, ils étaient quand même
petites.
Vous pouvez
pas être fonctionnaire si vous êtes étranger. Hein.
Mmh. Ouais, ils étaient toujours. Petites, mmh, toujours. Ouais. Ils étaient petites, attends. Puis on les demande. Ah oh, non, on va être italienne, hein. Ah oh, non, 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 non. Et puis bon, ils sont allés en sixième. Mmh. Et tout de suite, un jour, ils rentrent, Claude Christine dit, ah maman, il voudrait mieux, oui, qu'on se fasse naturaliser. Mmh. Mmh. Et puis ça a été fait. Mmh. Vite fait, parce qu'eux, ils sont nés en France.
Oui, oui, oui.
C'était facile.
D'accord.
Tandis que nous... Les visites qu'on a passées.
Ah, ça, je sais. Oui. J'imagine bien.
Les visites, adieu.
Il fallait être blanc quand même.
Fallait être.
Oh, non,
et après, il y avait un dossier qui était.
Dossier qui est allé à Rome après.
Traduire les documents d'origine.
De Rome à Venise. Venise.
Consulat, après, derrière.
Consulat, oui. Oui, oui. Beaucoup de visites, radio.
Voilà, donc entre le propos d'un ami de la famille, la petite fille qui revient de l'école et qui, après avoir voulu rester italienne, dit « je voudrais être française », le parcours du combattant pour se faire accepter le dossier, on voit que les idées philosophiques sont un peu loin. Ensuite, on va écouter Madame Vicenzi. La naturalisation, pour elle, est d'abord économique. Se faire naturaliser est assez logique, d'ailleurs, pour des gens... ne voulons pas retourner en Italie. On écoute Madame Vicenzi.
Mes filles, j'avais attendu 4 ans et 12 ans. Parce qu'il n'était pas la troisième. Parce que mon mari l'avait fait venir son père et sa mère et il n'avait pas le droit de les verser là.
C'était pas légal.
Pardonne-moi, ils sont nous en famille et comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait naturaliser les 2 enfants. Que moi, je voulais qu'elle le fasse tout de suite. Quand j'ai fait tout de suite, parce que quand j'ai voulu les 2 grands, ils donnaient des primes à 3 mois, à 5 mois, à 8 mois, et un peu un paquet, un colis aussi, dans la troisième. J'ai eu.
C'est
et lui, il ne voulait pas se faire français. Au tout, son père chante.
Pourquoi?
Parce qu'elle n'avait pas son père et sa mère. Quand elle a décidé à prendre son père et sa mère, elle était bien contente de se faire français. Ah, fait les 2 enfants. Et après, sans problème, j'ai fait nous 2. Et la Clara, l'aînée, elle était déjà française. Moi, les 2 grands, ils sont naturalisés. Et quand ça...
Ils
l'aiment. Non. Moi, j'étais contente de me faire tout de suite parce qu'elle n'avait besoin de sous.
Voilà, donc des conditions économiques. Un autre cas, c'est monsieur de Livio Gazzola, où la réflexion est aussi vite conduite. Là, c'est hasard et pragmatisme. Alors, cet extrait est un peu long parce que monsieur Gazzola nous parle de sa naturalisation et celle de ses parents.
Arrivé à 16 ans, il y a eu un fait particulier. On s'est fait arrêter. J'étais en mobylette. Je me suis fait arrêter du retour du lycée par... la gendarmerie de Valentinier, papier, pas de papier, pas de carte d'identité, j'avais rien. Je n'avais aucun papier. Aucun papier, j'étais effectivement en situation non illégale. Heureusement, le gendarme en question était le père d'un ami qui est avec moi au lycée. Bon, il a fallu effectivement faire ses papiers. Faire ses papiers et... arriver aussi par anticipation à demander si on voulait rester italien ou si on voulait devenir français.
Ah oui, la question a été posée de manière administrative.
A été posée de façon, effectivement, façon très impromptue, comme ça, de façon très particulière. On y a...
Donc jusqu'à vos 16 ans.
On ne s'est même pas posé la question.
La question, c'était pas
posée. Voilà. J'avais un passeport. J'avais un passeport italien. Mm-hmm. Passeport vert, fameux passeport, là.
Et vos parents étaient naturalisés?
Non.
Oui.
Donc, mes parents sont toujours restés italiens, effectivement. Donc, arrivé à 16 ans, donc, il a fallu se poser la question. Et puis, en envisageant l'enseignement supérieur, bon, il nous a été dit que les bourses étaient plus faciles. On n'avait jamais eu de bourse parce que nous étions donc étrangers. À cette époque-là, les étrangers... au lycée, n'avait pas droit à la bourse, donc nous n'avions pas de bourse. Et puis, on s'est posé la question, bon, de façon très, très naturelle et très concrète, en se disant, bon, quels sont les avantages si on reste italien ou... Tous mes cousins étaient italiens, sont restés donc italiens. Les six cousins dont je vous parlais.
Qui étaient là depuis 10 ans.
Depuis là, effectivement, qui ont tous, qui ont le plus jeune, une dizaine d'années de plus que moi, etc. Ils sont toujours italiens.
Ils sont toujours là.
Ils sont restés, effectivement. Et puis, mon frère aîné et moi, puisque Gilbert, lui ayant 5 ans de moins, ne s'est pas posé la question donc au même moment, avons décidé, donc tous les deux, de demander, effectivement, de devenir français, naturalisé français. Et Gilles, puisque c'est là, effectivement, où l'occasion s'est présentée, nous avions la possibilité de changer de prénom.
D'accord.
De changer de prénom, effectivement.
Et il l'a francisé, alors.
Et voilà, donc il l'a francisé, effectivement.
D'accord.
Voilà, puis moi, je l'ai gardé, effectivement, voilà, bon. Pourquoi ? Je ne sais plus très bien pourquoi. Il y a eu effectivement ce... Là aussi, malgré tout, ce questionnement, à nouveau, qu'est-ce qu'on fait ? On est ancré, on est ici, on restera là, oui, c'est vrai.
Il y a eu une discussion avec les parents, avec vos parents.
Il y a eu donc des discussions, mais c'est vrai que c'était des sujets... mes parents étaient plutôt, je dirais, mon père bosseur, bon, c'est pas le genre de question qui... Il était peu bavard, on discutait peu quand même. Hein.
Oui, mais pour lui, je veux dire, s'il a choisi de rester italien, qu'est-ce qu'il vous disait à vous ?
Lui, il ne sait même pas d'opposer. Lui, c'était naturel. Lui, effectivement, donc ma mère comme lui, on ne va pas faire des paquets, on ne va pas. Oui. Voilà, on est là comme ça, on est bien comme ça, puis on reste comme ça. Quoi. Tout en sachant qu'il
ne retourne. Il est italien.
Voilà, c'est comme ça.
Je suppose qu'ils sont morts en France.
Ils sont morts en France, ils sont enterrés en France.
Est-ce qu'ils ont demandé d'être enterrés en Italie ?
En France.
Ils sont enterrés en Italie.
Oui. Non, là, ils avaient effectivement. Pour eux, la France, c'était leur pays.
Voilà, c'était leur
pays. Ah oui, c'était leur pays. Ils avaient plus, effectivement, je dirais, l'esprit français que l'esprit donc, italien. Bon, ils étaient plus...
Oui, ils adoptaient le pays qui l'avait appelé.
Exactement.
Tout en n'ayant pas leurs origines. Puisqu'en restant italien, c'est bien marqué qu'en fait, je suis né là-bas.
Voilà, c'est ça, effectivement. Voilà, je suis né là-bas, mais je suis en France. La France m'a accueilli. Et c'est vrai qu'ils ont toujours été, je dirais, ils se sont toujours sentis redevables, effectivement, par rapport à leur nouveau statut, quoi. En France, la France les a accueillis. Voilà, je pense que là, on sentait qu'il y avait donc une reconnaissance. Il y a toujours eu, effectivement, aussi bien chez ma mère que chez mon père, cette reconnaissance par rapport à la France, quoi. Donc,
le pays qui, quelque part, les avait nourris,
exactement.
Que votre père étant venu à 30 ans, moins 7 ans de, comment dire, de guerre.
Service militaire,
donc il est parti au service militaire à 23 ans. Donc il a eu le temps de voir sur place comment on vivait.
Oui. Puis voir les difficultés qu'il y avait, voir les difficultés. Là, il m'en parlait, je me souviens. D'origine, la famille de mon père, la famille de Gazzol, était de Turin. D'ailleurs, j'ai un oncle, j'ai mes cousins germains qui y sont encore, hein, qui ont repris donc la ferme de mon oncle. Cette ferme étant trop petite, mes grands-parents se sont expatriés sur Venise, sur Stoccaré. Et puis mon père est né à Altivole. Altivole, c'est tout près de Turin. Altivole. Donc autrement dit, il y a eu cette volonté, je dirais, effectivement, de se dire, on est six, il y a quatre garçons et deux filles, la propriété n'est pas assez grande pour tout le monde. Voilà, donc autrement dit, il faut qu'on aille voir ailleurs, voilà, c'est ça.
Et ceux qui sont restés là-bas, dans les frères de vos pères,
oui.
Donc lui, il est venu tout seul en France ou il y en a d'autres qui sont venus ?
Tout seul.
Tout seul.
Oui, ça s'est passé comment après pour eux en Italie ? Bien ou...
Pas de souci. Bien. Oh. Donc nous y retournions, effectivement. mes parents avaient leurs parents là-bas, bien sûr. Bon, on y allait donc de temps en temps. Mes oncles, tantes venaient de temps en temps. Je dirais, on a gardé effectivement ce relationnel que l'on essaie de garder maintenant et que nos enfants, puisque nous avons deux garçons, hein, l'un qui est en Suède actuellement avec sa grande famille, puisqu'ils en ont trois enfants, et l'autre qui est à Marseille, avec trois enfants aussi. Bon, et nos deux enfants ont encore gardé cette fille ouais. Ouais. Avec leur cousin là-bas. Pourquoi on a nos enfants?
Est-ce qu'ils ont appris l'italien, eux?
Oui. Alexandre, oui. Et Ludovic aussi, les deux d'ailleurs.
Bien, j'ai laissé volontairement un peu Monsieur Gazzola parler parce que ses parents donc sont restés italiens et on voit à leur parcours que quand ils sont venus en France, il n'était pas question pour eux de retourner. Maintenant, on va écouter Madame Costabel.
Nous avons été naturalisés tous les trois en février 1928. Il a attendu, mes parents me l'ont dit, ils ont attendu pour demander la naturalisation que tout l'argent qu'il avait en Italie pour ce qu'il avait vendu, il avait apporté tout ce qu'il pouvait quand il est rentré. Ouais. Mais le reste, on lui envoyait un mandat tous les mois. Et quand ça a été épuisé, il a pu demander, parce qu'autrement, il n'aurait pas eu le droit de faire rentrer les... C'est tout. C'est une histoire de sous.
Voilà, une seconde histoire de sous. Là, c'est, je vais résumer un petit peu parce que la prise de son n'était pas très, très bonne. Le père de Madame Costabel a tardé un peu à se faire naturaliser pour pouvoir rapatrier l'argent d'un petit bien qu'il avait vendu. Alors, en Italie, ça, je rappelle sa date de naturalisation, c'était en 1928. Maintenant, on va écouter à nouveau Madame Costabel, qui poursuit.
Puis alors après, il a travaillé chez diverses personnes. Et la dernière avant la guerre, c'est à l'hôpital d'Ours, où il a travaillé 5 ans et où il a été renvoyé. Parce qu'il n'était pas français d'origine.
Il n'était pas de père français.
De père et de mère français.
Vous m'aviez donné la lettre.
Oui, oui. J'ai la lettre.
Avant la guerre donc de 45.
Non, 16 août 40.
40.
C'est 40. Une lettre du préfet, du directeur de l'hôpital.
Oui, c'est une...
Du 16 août 40.
C'est une loi Pétain.
Ouais.
Et à l'hôpital, ils ont été 3 renvoyés.
Ici, à Beaumont.
Oui. Il y avait mon père, il y avait une dame... du pont de Jailluc, dont le prénom est Maria, mais son nom de... Et puis un monsieur dont le père était espagnol et qui avait fui... Bon.
Le
alors, ils ont été 3. Bon, il s'est retrouvé à nouveau sur le carreau. Et puis après, il a pu aller travailler chez Diedrich, où il est resté jusqu'à sa retraite.
Donc, dans l'administration française, sous les lois à Pétain, il suffisait pas d'être français, mais il fallait être né de parents français. Donc, c'était comme ça dans l'administration d'extrême droite. On peut imaginer, je sais pas si on peut imaginer ça en 2017, on sait pas. Alors, au fur et à mesure de l'écoute de ces enregistrements, j'ai compris la difficulté que présentait la naturalisation sur le plan matériel. Par exemple, une Italienne se croyait française parce que née en France et elle a été tout de même naturalisée par la suite. Une autre découvre à 80 ans qu'elle ne peut pas avoir de carte d'identité parce qu'elle était italienne alors qu'elle se croyait française. On va écouter maintenant Madame Mononi.
C'est notre papier de naturalisation que j'ai découvert.
J'allais vous le demander.
Que j'ai découvert. Si
vous,
parce que moi, je croyais.
Vous avez été naturalisée ou pas,
je croyais que j'étais française comme j'étais née en France. Ouais. Et puis, j'ai découvert au décès de mon papa dans ses papiers qu'en fait, j'ai été naturalisée en 60. Oui, et alors attendez. Et c'était en 62. Donc, 62, voilà.
D'accord. Donc, la naturalisation, elle s'est faite pour toute la famille en même temps.
Alors, sauf ma sœur aînée qui était déjà mariée, qui était mariée à un Français, qui est donc devenue française par le mariage.
Ouais.
C'était
alors,
systématique.
Et qui avait la double nationalité puisqu'elle
elle en est sûre.
Bah écoutez, chaque fois, elle a été.
Je vais vous dire. Alors, c'est pas la première fois que je raconte cette anecdote, mais maman est née en Italie.
Oui.
Sa sœur a 2 ans de plus qu'elle, donc elle est née en Italie. Elles ont 87 et 89 ans hein, maintenant. Au décès de mon oncle, qui est décédé 3 semaines après mon père, qui était deux beaux-frères mais qui est très lié. Bien sûr, à chaque décès, il y a des papiers à présenter.
Oui.
Et ma tante est née en Italie. Elle s'est mariée avec un Français, français-français.
Ouais.
Et par le mariage, à l'époque, c'était 47, 48.
Enfin, oui, c'est ça, comme
elle,
une lettre.
Elle, était, ouais. elle était considérée, enfin, dans tous les cas, c'est ce qui lui était dit, comme française. Voilà. Elle n'a jamais eu de carte d'identité, elle n'a jamais demandé de carte d'identité.
Mais française ?
Oui, oui, elle n'a jamais, mais elle n'a jamais demandé de carte d'identité.
D'accord.
Parce que, bon, vous savez, à une époque, on ne demandait pas des papiers toutes les 5 minutes. Mmh. Et au décès de son mari, elle, pour aller faire certaines démarches, il lui fallait une carte d'identité. Mmh. Donc ses enfants, comme elle est âgée, s'occupent de demander sa carte d'identité. Il lui dit, mais...
J'en ai pas.
Elle dit, j'en ai pas, alors qu'il s'occupe d'en demander une. Et puis, à la mairie du coin, ils lui disent, bah, il faut que, fournir tel et tel papier. Donc, effectivement, le certificat de naturalisation, ou si elle a été mariée, elle demande à Nantes, qui n'a rien du tout, elle apprend qu'elle n'est pas française.
Alors, ma sœur, je suis sûre qu'elle a une carte d'identité. Donc
Si elle en a une, il n'y a pas de souci.
Et elle a reçu très, très longtemps après son mariage, c'était d'ailleurs la seule qui recevait toutes les informations de l'État italien. Elle était convoquée chaque fois qu'il y avait des élections, elle recevait un papier où elle pouvait voter. Alors, je n'ai pas compris comment ça fonctionnait, mais en tout cas, elle recevait tout
elle
ça.
Elle devait avoir la double nationalité.
Je ne sais pas. En tout cas,
mais
plus,
elle était, la double nationalité existait, hein.
Oui.
Et vos parents, justement, parce que je vois si la naturalisation date des années 60, ce qui veut dire que pendant un certain temps,
ils avaient un permis de travail et une carte de séjour.
Ça, c'est évident.
Toi aussi, tu avais une carte de séjour, je crois.
Vous aussi, une carte de séjour. Et donc, vous aussi, vous n'étiez pas considéré comme française.
Non. Non.
Et la naturalisation s'est faite en famille.
Il l'a demandé pour.
Et est-ce que... Donc, eux, ils continuaient à voter en Italie ou ils votaient
non,
plus
Non, ils votaient plus.
D'accord,
ils
n'allaient pas voter.
Et pour obtenir la naturalisation, mes parents l'ont demandé pendant combien d'années
Au moins 5 ans. Je sais qu'ils ont fait les démarches 2 fois.
Ouais.
Une première fois, c'est...
Voilà, donc cet exemple nous montre bien que dans les faits, c'est un peu confus. Et puis, dans la tête des gens aussi, on voit que la naturalisation n'était pas quelque chose de simple. Allez, nous allons faire une dernière pause musicale avec la Ballata d'Irzurt du groupe Incanto. Alors, Irzurt est une commune des Pyrénées ariégeoises dans laquelle la Société hydraulique des Pyrénées avait décidé de construire une digue à 1600 mètres d'altitude. Et il se trouve que au mois de mars 1939, il est tombé beaucoup de neige et cette neige accumulée sur les baraquements les a fait écrouler et la tragédie a produit le décès de 28 émigrés italiens et de 2 Français. Voilà la condition de travail, c'est un peu comme la même chose que dans les mines. Donc cette chanson est de Gualtiero Bertelli, un ami de l'INIS que nous avons invité plusieurs fois dans la région, et elle est interprétée par le groupe franco-italien Incanto.
Che coi loro fratelli francesi
Alors généralement, la décision de naturalisation valait pour toute la famille. Elle était prise donc pour l'ensemble de la cellule familiale. Mais parfois, c'était un peu différent. On va écouter Madame Martiletti.
Mère s'est fait naturaliser en 1937 ou 38, je ne me souviens plus. Et que c'est Daladier qui lui a donné son naturalisation. Et alors là, maintenant, moi, je suis mariée avec un Français. Je suis née en France. Et quand je veux faire des papiers, on me demande l'extrait de naturalisation de mes parents. Alors, comme ma maman est décédée, j'ai récupéré tous les papiers, j'ai fait faire des photocopies à tous mes frères et mes sœurs, et j'en ai donné à tout le monde, même à mes arrière-enfants, petits-neveux, parce que quand ils veulent faire quelque chose avec le nom de Martelletti, on vous dit « Vous êtes français ?» Voilà.
C'est une nouvelle mode, ça. Voilà. Et votre papa, lui, il s'était fait naturaliser ?
Ah non, pas mon papa. Il était resté italien. Italien. La naturalisation a été faite que quand ma maman était toute seule.
Est-ce que c'est...
Parce qu'elle ne trouvait pas de travail autrement si elle n'était pas naturalisée française. D'ailleurs, avec les demoiselles, moi j'appelle ça les demoiselles, qui faisaient le patronage et tout, ils l'ont presque fait faire ses papiers. C'est eux qui s'en sont occupés.
Qui l'ont un petit peu poussé.
Oui, qui l'ont un peu poussé, oui.
Mais votre papa, c'était volontaire qu'il ne voulait pas...
Oui, c'était volontaire parce que, vous voyez, ma tante qui est là, qui s'appelait Lisette Pétuya, elle est née Jaconelli, elle ne s'est jamais fait naturaliser. Elle est morte italienne.
Voilà, donc différents cas de différentes positions sur la naturalisation. Je voudrais rappeler un petit fait de notre histoire à nous. En 2005 à 2007, puisqu'il était question à cette époque-là, il y avait une loi sur la nationalité tous les 15 jours. Et il a fallu que des gens prouvent la naissance, le fait que leurs parents soient français, bien qu'ils aient déjà une carte d'identité. Et à l'occasion de son renouvellement, il fallait aller au-delà. C'est-à-dire que l'ancienne carte d'identité ne suffisait pas pour attester de la nationalité française. Donc c'est un peu curieux puisqu'on avait une carte d'identité française et quand on veut la renouveler, ça ne suffit pas pour montrer qu'on est français. Je ne me rappelle plus le nom du ministre de l'Intérieur de l'époque. Bien, voilà pour le volet de naturalisation. Et je voudrais maintenant rapprocher, élever un petit peu, prendre un peu de recul et rapprocher l'immigration italienne de la situation des clandestins qui travaillent au ramassage des tomates dans le sud de l'Italie, c'est-à-dire les Pouilles, la Sicile et la Basilicate. Là-bas, la tomate y est nommée l'or rouge, c'est dire les bénéfices qu'elle peut laisser aux propriétaires, aux agriculteurs locaux. Peut-être pas qu'à eux d'ailleurs. La variété de tomates utilisée est une variété de plein champ, c'est-à-dire qu'elle est sans tuteur. Donc tous les étés, depuis une vingtaine d'années, 700 000 clandestins environ ramassent les tomates. Le travail clandestin, bien sûr, est interdit en Italie, comme en France. D'ailleurs, au niveau du droit social, on peut dire que l'Italie et la France ont un niveau quasiment identique. Donc le travailleur est obligé d'arracher à la main le pied de tomate, de le transporter quelques mètres jusque dans un petit conteneur, de le secouer pour que les tomates tombent. Donc pour gagner une dizaine d'euros par jour, il faut récolter 2 à 3 tonnes de tomates. Donc c'est vous dire si le travail est épuisant. Donc les lobalgies sont quasiment présentes chez tous les travailleurs. Mais comme ils sont sans papier, ils ne vont pas à l'hôpital. Donc c'est une association de médicale qui vient de temps en temps sur place. Et comme la lombalgie se soigne généralement par le repos, c'était pas leur premier médicament, le repos. Enfin, je vois pas pourquoi je dis c'était pas, c'est ce n'est pas. Donc quand la journée est terminée, donc il y a le caporal, le petit chef, quoi, en quelque sorte, qui les ramène au ghetto. Alors, le petit chef est un chef de leur ethnie, c'est-à-dire que s'il y a des Nigériens qui sont clandestins, eh bien, on prend un chef nigérien. Donc là, ils arrivent dans leur baraquement, il n'y a pas d'électricité et de l'eau, mais qui est à une distance respectable. Alors, les municipalités viennent de temps en temps apporter de l'eau. Par contre, la police, les inspecteurs du travail, eux, ne viennent jamais. Donc, j'ai tiré ces quelques mots d'un reportage qui date de l'année dernière, peut-être, et qu'on trouve sur France 24. Et en fin de compte, je me demande si les conditions de vie des immigrants italiens dans le monde, pas seulement en France, n'étaient pas meilleures que celles des clandestins qui ramassent des tomates. Leurs conditions, bien sûr, étaient très difficiles. On a entendu souvent les gens nous dire qu'il n'y avait pas l'eau, que les conditions d'hébergement étaient très difficiles. Mais ils savaient, je crois, les Italiens qui étaient en France, ils savaient que leurs conditions sera meilleures, quoi. Et le recul a montré qu'elles ont été effectivement meilleures par la suite. Par contre, les clandestins, eux, non. Voilà, eh bien, donc nous allons terminer par une chanson d'Erlika Boschero qui sera là à notre festival Estrade. Et je vous dis donc au mois prochain où vous me retrouverez avec Alain Pongrin. Au revoir à tous et à Laurent.
Io son papavero di ferrovia, tu treno veloce che vola via, carezza un po' scombina. Io, il mare calmo sorpreso da una tempesta che improvvisa fa gonfiar le onde a prua. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va imparato e a volte si nasconde. Con le parole io ho sempre giocato, ora che ne ho bisogno non ho fiato e ogni sillaba muore. Saluto alla stazione, è un cavo di spalla cui promettere una lacrima in partenza. La geografia di un corpo dà una vertigine nell'anima e non puoi più farne senza. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va giocato e a volte ti risponde. Come conchiglia tu m'hai innamorato, silenzio e vortice dimenticato e non c'è più pudore. È su te che si invola ogni attimo, verso te ogni strada e ogni battito. Accanto ai canti che ti canto c'è amore, un posto solo per me, te strappato all'avvenire. Un solo gesto da abitare e poi lascia cadere il buio sopra noi, che è tempo di partire. Io che d'amore non ho mai cantato, so che l'amore a volte va danzato e a volte ti confonde. Saprei il sipario ed eccoci signori a voi, due ombre sotto i riflettori e noi sfumati nel vapore. È su te che si invola ogni attimo, verso te. So che l'amore a volte va danzato e a volte ti confonde. Come conchiglia tu m'hai innamorato, silenzio e vortice dimenticato e non c'è più pudore.
ti risponde.
À l'écoute de l'Italie, une émission de l'association INIS.
Actualité, chansons, gastronomie, échange entre l'Italie et le Nord-Isère.
Animée par Serge Chambon et Alain Pongan, mise en onde sur Couleur FM 97.1 et sur couleurfm.fr.